Oui, avec la création. Merci à vous, Frédéric.
Merci. Voilà, changement de décor pour ceux qui nous regardent de loin. Donc, je salue chacune, chacun, ce soir, ici ou ailleurs ou plus loin. Ce livre, il a effectivement une petite histoire. Je m'étais dit que les bibliothèques étaient déjà trop remplies pour penser utile d'écrire quelque chose. Et je me suis retrouvé avec une invitation après le premier confinement par les éditions de l'Emmanuel à pouvoir essayer peut-être de réfléchir aussi à ce qui s'était passé quand nous avons été mis en retrait, nous avons été contraints de nous retirer et que la biodiversité, des animaux, toute une vie que nous ne connaissions plus a repris sous nos yeux. Alors, ce fut le point de départ. Après ce livre, il a aussi été l'occasion d'une sorte de méditation, d'une intégration finalement de 22 années de vie capucine, avec des rencontres, avec des lectures, avec des sources variées auxquelles je vais rendre finalement hommage ce soir. Le titre de notre conférence, c'est La célébration de la création. Alors ce titre, il a plusieurs sources. Une première source que je voudrais évoquer, je le salue parce que j'ai vu son visage, c'est Jacques Dallarin qui nous regarde et qui est avec nous ce soir et qui, dans ce très bel ouvrage, Le Cantique de Frère Soleil, François d'Assise réconcilié, qui est un commentaire du Cantique de Frère Soleil, avec nombre d'illustrations, d'iconographies autour de ce thème. Et voilà ce qu'il dit à la page 95. François ne vénère pas la nature, il célèbre la création. Voilà déjà qui pourrait suffire presque à notre thème. François ne vénère pas la nature, il célèbre la création. Autre source, c'est notre voisin et ami François Scheng, qui, dans un numéro d'études franciscaines en 2012, écrivait à la page 194 son cantique, le cantique de Frère Soleil, est un chant de célébration et de réconciliation. Donc ce thème également, et c'est cet article qui a donné ce très beau petit livre, Assise, une rencontre inattendue. Et puis dernière citation pour entrer dans notre sujet, là c'est un livre d'un novice jésuite qui n'a pas continué, mais qui a eu le temps quand même de faire ce que dans la compagnie de Jésus on appelle le moi mendiant. Le moi mendiant, c'est un envoi deux par deux pendant un mois avec 15 euros en poche. Donc autant dire que c'est pour les premières heures du voyage. Et ensuite, ce sera la mendicité du lieu, du gîte et du repas. Ce novice jésuite s'appelle Charles White, Wright, et il a écrit un livre qu'un frère m'a fait lire cet été, Le chemin des estives, grand succès de prix, de librairie. Et voilà ce qu'il écrit à la page 160. Donc, il y a eu 159 pages de désillusion, de fatigue, de marche, en bref. Il marchait autour de l'Auvergne pour aller jusqu'au puits, peut-être, je ne sais plus où était le point de départ. J'ai l'impression étrange, écrit-il, que les paysages commencent à entrer en moi, à m'investir, à me saisir. Dans son journal, Thoreau délivre ce conseil, n'allez pas à l'objet, laissez-le venir à vous. Il a raison. Lorsqu'on se vide de toute convoitise, de toute avidité de saisie, qu'on laisse les choses être, les yeux flâner, et qu'on n'oppose plus au paysage notre poussée personnelle, alors ces choses viennent à nous et exhalent leurs secrets, leur intériorité. On acquiert une vue perçante. Le monde s'illumine. On aperçoit qu'autour de nous, c'est un festin de lumière, de beauté, une profusion de formes, de saveurs, de couleurs. Tout est là, donné en abondance. Il suffit de cultiver une attention aimante, une fraîcheur de regard. Voilà ces quelques lignes qui montrent l'actualité de ces retrouvailles, pourrait-on dire, avec la création. Je voudrais procéder en trois points. Alors, il y a des choses qui vont reparcourir le livre, mais il y a aussi d'autres choses, parce que ce dont je me rends compte, c'est que le principe d'un livre, c'est comme une photographie à un moment donné, mais la pensée, les lectures, les rencontres aussi, ouvrent de nouveaux horizons et on se dit, bon, ben, c'est déjà daté d'une certaine manière. Alors, c'est intéressant, mais c'est daté, ou alors c'est déjà dépassé peut-être. Mais c'est intéressant de voir ce lien de l'écrit aussi avec la pensée, puis avec des émotions aussi liées à des rencontres suite à ce livre. Quelqu'un m'avait prévenu, m'avait dit vraiment l'après-livre aussi, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment quelque chose sur lequel on n'a pas insisté peut trouver un écho, ou au contraire, quelque chose qui nous paraissait important, ben, passe inaperçu. Mais c'est là où on voit qu'un livre est aussi un dialogue très intéressant. Donc je voudrais procéder en trois points, me mettant dans le sillage de François d'Assise. Mon premier point sera d'évoquer, et ce qui est pour moi la clé, et je commence le livre comme ça, la clé de ces retrouvailles avec la création, qui est la personne de Jésus. Mon deuxième point parlera de la vocation de l'homme dans cette célébration de la création, et mon troisième point, des relations renouvelées. Mon premier point, donc, Jésus. Suivant les biographies de François, Jésus arrive en milieu, enfin, n'arrive pas parfois. Et mon point de départ dans le livre a été de rapprocher quelques événements de la fin de la vie de François. Noël 1223, Greccio, c'est-à-dire François veut voir de ses yeux, sentir les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu est venu dans la chair, donc un âne, un bœuf, une crèche, une mangeoire. Noël 1223, septembre 1224, François est sur le mont Alverne et il a cette longue méditation de la Passion. Et le 17 septembre, une apparition du séraphin avec corps d'homme et la marque dans ses mains, ses pieds et son côté des clous de la croix de Jésus apparaissent. Et printemps 1225, le jaillissement, le chant du cantique des créatures, probablement à Saint-Damien, ou à la Foresta, selon aussi une autre tradition, probablement à Saint-Damien, alors que François est presque aveugle, épuisé par les jeûnes et stigmatisé. Et ce sont ces trois événements qui m'ont interrogé. Et un article du philosophe Emmanuel Falk dans la revue Communio en 1993 m'a encore plus attiré et a commencé à me donner quelques éléments de réponse sur le fait que François reçoit les stigmates, il y a une impression des stigmates en sa chair, et quelques temps plus tard va jaillir l'expression comme d'une entrée dans la création réconciliée. On a ici le passage, la Pâque finalement, par la mort et la résurrection de Jésus, et qui permettent à François de, pourrait-on dire, voir au-delà de l'apparence, mais déjà d'entrer dans la réalité du royaume et des relations réconciliées. Un frère auquel je rends hommage dans le livre, et je remercie le frère André Ménard, qui est présent, qui était présent tout à l'heure, mais qui est là, qui, c'est l'été où j'écrivais le livre et où je devais sembler fatigué, le frère André m'a recommandé la lecture d'un capucin, Dominique Gagnon, qui avait écrit plusieurs articles dans qui réfléchissait à la figure de François et qui avait écrit plusieurs articles dans la revue Études franciscaines. Et dans un article publié en 1982, donc après sa mort, il est mort à l'âge de 40 ans, voilà ce qu'il écrit dans cet article qui m'a en fait donné une clé. Dans l'expérience de la croix, François a connu l'amour rédempteur. Mais l'amour rédempteur est nécessairement de même nature que l'amour créateur, puisque Dieu ne peut aimer autrement que comme Dieu. Dès lors, l'expérience de la croix ouvre celui-là qui la vit sur le sens même du créé. Voilà qui m'est apparu, en fait, lumineux, comme la réponse à ce lien entre les stigmates et le cantique des créatures. Évidemment, à la fin, tout se voit de manière éclatante, mais c'est en fait un aboutissement d'un cheminement de conversion. Alors, conversion dont certains éléments sont connus au point de départ, la bataille de Pérouse avec l'incarcération pendant une année, la maladie de la malaria, ensuite les temps de solitude, le dialogue avec le crucifix de Saint Damien, le baiser aux lépreux, le dépouillement en place d'assises, jusqu'à la reconnaissance de la règle par le pape, pourrait-on dire, en 1209. Là, ce sont les événements fondateurs, en quelque sorte. Mais ces événements fondateurs qui vont conduire François, finalement, pour reprendre le titre d'un livre d'un Canadien, Jean-Marc Charon, de Narcisse à Jésus, et en particulier à la croix de Jésus, qui est quand même le symbole de l'échec, François qui veut réussir et qui se regarde en train de réussir, rencontre Jésus crucifié dans le crucifix de Saint Damien, dans le lépreux. Et petit à petit, ça va introduire un chemin de conversion, un chemin de pauvreté, et qui va devenir la clé de son dépouillement, la clé de la pauvreté vécue, la clé de relations et de rencontres nouvelles. On pourrait dire qu'il ne s'engage plus dans les relations en conquérant, mais au contraire en pauvre, qui laisse venir en mendiant, pourrait-on dire, de la rencontre. Donc, cette expression de Dominique Gagnon a été pour moi lumineuse, c'est-à-dire que le lien, François a connu l'amour rédempteur, et cet amour rédempteur est de même nature que l'amour créateur, et donc fait vivre et entrer, ouvrir sur le sens même du créé. Mon deuxième point, donc, sur la vocation de l'homme dans ce créé et dans ces relations dont je vais parler un peu plus maintenant. L'actualité fait écho à une intuition de François qu'il martèle, notamment dans la première règle, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et par sa faute, il est tombé. Par sa faute, il est tombé. En quelque sorte, il s'est discrédité dans cette création. Il s'est disqualifié. Et François le dira dans son cantique de Frère Soleil, « Nul homme n'est digne de te nommer. Ça apparaît également dans la première règle. Nul homme n'est digne de te nommer. Alors que nous étions équipés et dans la compréhension, je vais revenir là-dessus, du sens même du créé, reflet, expression de la bonté de Dieu Trinité, eh bien, nous sommes, par notre faute, nous sommes tombés et nous nous sommes disqualifiés. Dès lors, la seule attitude sera de mendier notre place parmi le créé. Et donc, d'entrer dans des relations avec le créé qui ne seront plus des relations de domination ou de suffisance, mais des relations à l'image du lavement des pieds, évangile que François va se faire relire d'ailleurs avant de mourir. Et donc, l'enjeu après la chute sera, alors que nous pouvons défigurer le créé, sera pour François d'habiter le créé de manière nouvelle. L'habiter pour lui permettre de correspondre à sa secrète sacramentalité. L'homme est tombé par sa faute. André Vaucher, l'historien qui est déjà intervenu ici, dans son livre aux éditions Fayard sur François d'Assise, écrit à la page 408, « Le rôle de l'homme n'est pas essentiel dans cette célébration du monde, car le monde a une telle consistance à ses yeux qu'il est capable de chanter tout seul la gloire de Dieu. » Ça peut être utile de nous rappeler cela aujourd'hui. Né de la terre et enveloppé du cosmos, l'être humain n'en est cependant ni le centre, ni le maître, même s'ils ont été faits pour lui. Ces réalités restent donc bien distinctes, ce qui exclut tout panthéisme, mais celles-ci peuvent se rejoindre dans une prière commune de louange adressée au Père, dont l'amour les fait exister. L'homme est tombé par sa faute, il a donc à mendier, pourrait-on dire, son retour dans la création, une création dans laquelle Dieu a laissé de multiples signes. Mais ces signes, nous ne les voyons pas. Nous sommes comme aveuglés, sourds, désorientés, mais ces signes existent. Et François va découvrir, et en fait c'est cela proprement la conversion, François va découvrir en chaque créature une parole de Dieu, une parole du Père par le Fils et dans l'Esprit Saint qui va l'inviter à la louange. Donc dans ces retrouvailles avec la création, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du mendiant, François, qui va se laisser enseigner par la création, se laisser enseigner. Le sermon aux oiseaux, certes, c'est François qui trouve les mots, les qualificatifs pour dire que les oiseaux doivent remercier pour la providence, doivent remercier parce qu'il y a la providence par la nourriture, doivent remercier pour ce qu'ils sont équipés avec leurs plumes, qu'ils sont entre ciel et terre, qu'ils chantent. Certes, c'est François qui nomme ces qualificatifs, mais ce sont aussi les oiseaux et la relation aux oiseaux qui révèlent à François qui est Dieu et qui l'invite à se joindre à leur concert. Mais aussi, et c'est ce que François va découvrir en homme biblique, François a une mission qu'on pourrait appeler une mission sacerdotale, qui est justement de prêter notre voix à toute la création, afin qu'elle retrouve ce chemin de son orientation qui est la louange de la Trinité créatrice. Donc à la fois nous sommes mendiants et nous avons une responsabilité dans ces retrouvailles. On pourrait appeler cela le service pascal, parce qu'il y a une dimension de Pâques, le service pascal du créé. Et c'est pour cela que j'ai voulu insister dans ma première partie, brièvement, mais c'est ce par quoi je commence le livre, ce qui est un peu abrupt, c'est un peu la face nord quand même de la vie de François que ces stigmates, mais parce que c'est vraiment le fait de coller à Jésus. Thomas de Celano dira que François avait Jésus devant les yeux, Jésus sur les lèvres, Jésus dans le cœur, Jésus, Jésus, Jésus. C'est le fait de coller à Jésus dans son abaissement, dans sa pauvreté, dans son dépouillement, qui va permettre à François d'entrer dans cette attitude à la fois mendiante et de comprendre, dans le sens de l'Écriture et de la Révélation, sa place, sa responsabilité de chantre de la création. Donc, on peut parler d'un service pascal du créé. Cela me semble exprimé dans la biographie de Thomas de Celano au numéro 165, où chaque mot a son pesant, pourrait-on dire. Si François avait hâte de sortir du monde comme de l'exil d'un pèlerinage, tout à fait intéressant cette dimension de pèlerinage, c'est un de mes titres de chapitre, le pèlerin, pèlerin et étranger en ce monde. Comme les Hébreux au désert, soulignera Bonaventure entre l'Égypte et la terre promise. Si François avait hâte de sortir du monde comme de l'exil d'un pèlerinage, cet heureux voyageur se réjouissait de ce qui est dans le monde. Donc, par notre faute, nous sommes tombés, mais il y a aussi des motifs de joie. Et certes, pas peu, souligne Celano. Face au prince des ténèbres, il y a toujours un aspect de drame dans l'existence pour François. Face au prince des ténèbres, il s'en servait, le monde, comme d'un champ de bataille. Donc il y a un affrontement, pas un affrontement de conquête, mais pourrait-on dire un affrontement de dépouillement. Emmanuel Falk souligne dans cet article de Communio de 1993, Emmanuel Falk souligne que nul ne verra dans la création un frère ou une sœur s'il n'a d'abord été défait. On pourrait dire mis KO. Défait au sens de la bataille militaire, mais défait au sens d'avoir été mis à terre d'une certaine manière. Il s'en servait comme d'un champ de bataille, donc ne nous trompons pas de bataille. Mais face à Dieu, comme d'un très clair miroir de sa bonté. La création, tout le créé, comme un clair miroir de sa bonté. À l'ouvrage, on loue son artisan. Tout ce qu'il trouve dans la réalité, il le rapporte au Créateur. Il me semble qu'il y a tout à fait un écho de 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il exulte en toutes les œuvres des mains du Seigneur et à travers d'agréables spectacles, il considère la raison vivifiante et la cause. Il reconnaît dans ce qui est beau la beauté suprême. Pour lui, toutes les choses bonnes crient. Quand vous sortirez, que vous trouverez un brin d'herbe qui, parce que la vie est plus forte que nos bitumes, quand vous regarderez une feuille, eh bien, peut-être que vous vous souviendrez de ces mots, « Toutes les choses bonnes crient », deux points, ouvrez les guillemets, « Celui qui nous a faites, c'est le bien suprême ». à travers les traces imprimées dans les chaux, il suit partout le bien-aimé. Il se fait de tout une échelle par laquelle il puisse parvenir au trône. Avec l'affection d'une dévotion inouïe, il embrasse toutes choses, leur parle du Seigneur et les exhorte à le louer. Voilà, en quelques lignes, en Thomas de Celano 2, paragraphe 165, voilà en quelques lignes exprimé ce que peuvent être ces retrouvailles, ces réjouissances, cette joie, ce combat, à la fois champ de bataille, clair miroir de la bonté du Créateur et attentif à l'écoute des créatures qui crie, celui qui nous a faites est le bien suprême. Alors, si vous, nous n'en sommes pas là, c'est un peu normal, pas totalement, mais un peu, parce qu'effectivement, il y a eu la chute qui nous a complètement désorientés, qui nous laisse sourds, aveugles, muets. Je citerai Bonaventure dans quelques instants, mais qui n'empêche pas qu'il n'y a pas de créature sans l'influence permanente du Créateur. Ce thème d'influence, le frère Luc Mathieu, par exemple, dans un article de 1966, en parle, mais je n'ai pas la bonne référence. Mais ce terme d'influence permanente du Créateur, influence au sens d'un dynamisme, de ce qui fait être, de ce qui tient dans l'être. Alors, toute créature clame l'unité divine, la beauté divine, la bonté suprême, toute créature. Pour moi, c'est un écho très fort à un passage de Laudato Si vers la fin, qui est la le plus proche finalement du sujet de ce soir, au numéro 233, le pape cite après plusieurs fois Bonaventure, « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Une mystique. Mystère, ce n'est pas ce que je ne comprendrai jamais, mais ce que je n'aurai jamais fini de comprendre. Et finalement, de voir dans sa réalité, dans sa consistance propre, avec cette influence de la Trinité créatrice et qui est miroir. Toute créature clame l'unité, la beauté divine, et spécialement l'âme humaine avec ses trois facultés, de mémoire, d'intelligence et de volonté qui nous reconduisent à la Trinité créatrice. Alors, dans l'extrait de Charles White dont je vous ai parlé au début, il y avait l'idée que la création s'illuminait à celui qui sait finalement l'accueillir comme un mendiant, la rencontrer, la retrouver comme un mendiant. Le même Dominique Gagnon dont j'ai parlé, toujours dans cet article de 1982, « La croix et la nature » chez François, m'a beaucoup éclairé justement sur cet aveuglement, cette surdité. Finalement, nos sens sont désorientés et devenus comme analphabètes pour vivre ces retrouvailles avec la création. Et il va chercher chez Hugues de Saint-Victor cette explication, cette compréhension du regard humain. Il voit, alors évidemment, l'expression va tout de suite vous faire imaginer une créature un peu particulière, mais il parle des trois yeux de l'âme. On pourrait dire peut-être les trois niveaux de profondeur du regard. L'œil de la chair, par lequel l'âme voit le monde extérieur. L'œil de la raison, par lequel elle voit le monde intérieur, elle-même avec tout ce qui est en elle. Et l'œil de la contemplation, par lequel elle voit Dieu en elle et tout ce qui est en Dieu. Vous me voyez venir avec des gros sabots. Aussi longtemps, je cite Dominique Gagnon, que l'âme eut ses yeux ouverts, c'est-à-dire dans la création originelle et non voilée, elle voyait clairement et discernait avec rectitude. Autrement dit, avant le péché originel, l'homme au regard équilibré pouvait lire ce livre de la nature en son évidence même. Ce qu'explique Pierre Lombard, les créatures furent créées pour l'homme, et ce à deux fins, pour le sustenter et pour l'instruire. L'instruire, car en chaque créature transparaît le vestige de la Trinité, de telle sorte que si l'esprit de l'homme n'avait pas été enténébré par le péché, il aurait eu la connaissance du Créateur de façon claire et évidente, sans aucun appui de l'Écriture. Mais, après que les ténèbres du péché eurent pénétré en elle, l'âme, l'œil de la contemplation, fut éteint, de telle sorte qu'il ne vit plus rien. L'œil de la raison devint voilé, de telle sorte qu'il vit de manière floue. Seul demeura en sa clarté cet œil qui ne fut pas atteint, celui de la chair. Ce fut là l'effet du péché originel que toute la tradition patristique résume en termes d'ignorance et de concupiscence. Blessant à mort l'œil de la contemplation, le péché rend l'âme ignorante de la présence de Dieu en elle et la livre alors à une sensualité qui, parce que privée du primat de cette présence divine qui normalement la finalise, se fait dictatoriale. Dès lors, la concupiscence n'éteint pas, mais obscurcit le regard de la raison. Beaucoup à commenter, bien sûr, dans notre actualité, cette dimension du péché et ses conséquences. Ce qui, pour notre travail, est intéressant par rapport à ce dépouillement, par rapport à cette attitude d'être défait, comme le corps stigmatisé de François, pour entrer dans des retrouvailles avec la création, eh bien finalement, c'est de se rendre compte que, si l'on fait le chemin inverse de celui que je viens de décrire, l'œil de la chair et la conversion va consister avec le livre de l'Écriture, médité, répété, mémorisé à longueur de temps, notamment dans la liturgie pour François, ce travail va permettre à l'œil de l'esprit, finalement, d'être rééduqué, pourrait-on dire, réorienté, et donc de lire à nouveau dans sa profondeur, le livre de la création. Et la clé, c'est pour ça que j'ai insisté au point de départ, me semble-t-il, dans la vie de François, c'est la personne de Jésus-Christ, pauvre et crucifié, aimé, rencontré, servi, annoncé, qui devient la clé de compréhension du livre de l'Écriture et qui permet, au regard à l'œil de la contemplation, finalement, de percevoir l'expression de la Trinité créatrice à l'œuvre dans le créé. Voilà l'enjeu de la conversion. Voilà l'enjeu de la conversion, voilà l'enjeu du service pascal du créé, et particulièrement pas simplement, c'est important, je le dirai à la fin en citant François Scheng, pas simplement dans ce qui nous est chatoyant, de ce qui nous apporte une satisfaction, évidemment, quelque chose que nous allons qualifier de beau, mais dans toute la création, y compris défigurée, que Jésus, par Son chemin d'abaissement à la crèche, à la passion, à la croix, est venu visiter, est venu éclairer, est venu embrasser. Et donc, le baiser aux lépreux, dans ce sens-là, devient le signe de toute la création porteuse, jusque dans sa défiguration, toujours porteuse de l'expression de la Trinité. Alors cela va conduire, et c'est ma troisième partie, à des relations renouvelées. Et c'est un peu tout l'enjeu de ma première partie dans le livre, avec ce dont parle le cantique de Frère Soleil, la fraternité, la maternité, le pardon et la mortalité. Voilà un certain nombre de points que je développe dans le livre. La fraternité, eh bien, c'est la reconnaissance de François d'appartenir à cette commune création, et en mendiant, puisqu'il dit au début du cantique, « Nul homme n'est digne de te nommer ». Donc, si nous sommes disqualifiés pour la louange de prime abord, si nous sommes disqualifiés pour la louange, dès lors, François va avoir l'humilité de reconnaître que par et dans Frère Soleil, Sœur Lune, Frère Vent, Sœur Eau, notre Sœur Mère la Terre, eh bien, la louange continue d'affleurer, continue de jaillir. Et François va la mettre en mots. Et là, on arrive à un point important que je cite complètement dans le livre et sur lequel le frère André Ménard a beaucoup insisté, qui est ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, l'axe de l'intention créatrice. L'axe de l'intention créatrice, c'est l'idée que nous avons été créés immédiatement comme personnes, hommes et femmes, images et ressemblances, immédiatement ordonnés à Dieu, et que la création, les autres éléments de la création, sont médiatement ordonnés. Pour nous qui pouvons, je n'ai plus les termes exacts, mais approuver la louange, entrer dans ce travail, dans ce regard de l'esprit, et puis un troisième élément que je n'ai plus en mémoire, mais toute la page est bien citée dans le livre. Et donc finalement, cet axe de l'intention créatrice nous dit bien qu'il y a à la fois un ordre, mais que ce sera un ordre de service. Je ne dis pas cela compte tenu du contexte et pour faire bien, c'est la minorité sur laquelle François insiste, et en donnant à lire l'évangile du lavement des pieds au moment de sa mort comme testament, François indique bien comment cet ordre fonctionne, pourrait-on dire, de l'orientation et de la manière d'être ordonné à la Trinité créatrice. Relation donc de fraternité, relation de maternité, quand François parle de notre sœur, mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, et toujours dans ce livre, le cantique de Frère Soleil, François d'Assise réconcilié, Jacques Dallarin insiste bien sur cette nouveauté inouïe de François. La terre, sœur, mère, qui nous porte et nous nourrit, et il souligne dans l'italien médiéval, qui nous gouverne, qui nous gouverne, qui nous nourrit. Cet été, j'ai eu la chance de marcher entre l'Alvern, où François était stigmatisé et assise, et c'est peut-être déjà un premier fruit de transformation de l'écriture de ce livre. Je marchais avec 12-15 kilos sur le dos, et je me suis surpris à remercier le chemin sous mes pas. Parce que, et ça vous y penserez, dès que vous sortirez, vous remercierez même Frère Bitume, qui en fait donne la sécurité à vos pas. Il y a un roman de Lewis, excellent, qui au contraire supprime cette sécurité. Et alors, dès qu'on fait un pas, on s'enfonce comme dans une espèce de bubblegum général. Mais ça provoque une insécurité, une angoisse radicale. Alors que là, on sait que si on met le pied, sauf tremblement de terre, tectonique des plaques, etc., ce qui n'est pas à exclure, eh bien, je pourrais poser un pas de plus. Et donc, il y a une mystique du chemin, dans le chemin, comme disait le pape François. Il y a une mystique dans le chemin aussi. Tout ça pour dire que, bien sûr, il y a les animaux, les végétaux, mais aussi les minéraux, les créatures inanimées. C'est un regard très large qui nous porte et nous gouverne. Qui nous gouverne au sens maternel, qui prend soin de nous, mais aussi qui a une autorité au sens où elle nous enseigne. Et il faut vraiment retenir cette dimension d'enseignement du créé qui peut aider François et nous aider sur le chemin du retour à Dieu, sur le chemin de cette réconciliation, de cette réorientation de nous-mêmes et par nous de tout le créé. C'était l'expression que j'employais au début et que j'ai prise sous la plume d'un métropolite estonien d'un article de 2004, une conférence de 2004 qui s'appelait « L'homme prêtre de la création ». Tout ça pour souligner que la théologie orientale est encore très active, beaucoup plus que nous qui l'avons désertée, dans ces dimensions que c'est toute la création réellement qui aspire au salut. Et voilà donc ce qu'écrivait, c'est ce que je disais, hein, « L'homme n'a pas vocation à défigurer, mais à habiter le créé pour lui permettre de correspondre à sa secrète sacramentalité. » C'est ce que nous faisons modestement tous les dimanches, jours de solennité, etc., lorsque dans la liturgie des Laudes, nous reprenons le cantique des trois enfants. « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. » Je dis ça pour aussi souligner la place de la liturgie dans cette louange, avec bien sûr la parole de Dieu, donc le travail de ce regard de l'esprit, mais aussi cette possibilité qu'a la liturgie de s'élargir à tout le créé. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Mais encore faut-il une voix immédiatement ordonnée au Créateur pour la rendre expressive, pourrait-on dire. Relation de pardon aussi, dans l'avant-dernière strophe, hein, « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi. » Et là, François doit comprendre qu'effectivement, et on peut se l'approprier à nous, à notre époque, hein, dans la relation, dans les retrouvailles avec la création, il y a un pardon mutuel. Hein. Il y a un pardon à demander au créé pour la défiguration. Et puis, la mortalité, qui est le moment, pourrait-on dire, le point d'orgue de la vie de François, dans sa pauvreté radicale à laquelle il est parvenu. Eh bien, il est rendu capable d'entrer du fait de cette manière d'avoir collé à Jésus, finalement, et d'avoir laissé Jésus le transformer, déjà, dès ce monde, dans le royaume nouveau et dans ses relations nouvelles, inaugurées par la mort et la résurrection de Jésus. La croix, dans ses relations, la croix, à la fois par son horizontalité et sa verticalité, elle est à la fois le centre du salut, elle est le centre de l'humilité, et elle est, et c'est là où, pour cela que j'en ai fait un point de départ, le dernier point de repère de la création déboussolée. Voilà, je termine par quelques idées qui à la fois viennent compléter puis peut-être reprendre. L'admiration, la joie de François, la création aussi entendue comme un champ de bataille, ne perdons pas aussi cette dimension dramatique, jusque dans ses traits défigurés qui portent les traits de Jésus pauvre et crucifié. Cette admiration du créé donc est en référence à la Trinité créatrice. Bonaventure l'exprime dans la Legenda Maior, au chapitre 8, paragraphe 6, « En considération de l'origine première de toute chose, manière philosophique d'exprimer la Trinité créatrice, rempli de la plus abondante piété, c'est-à-dire du désir de relation, François appelait des noms de frères ou de sœurs les créatures, si petites soient-elles, du fait qu'il savait, ça c'est le travail de l'œil de l'esprit, justement, qui, par la révélation, finalement, entreprend de prendre le chemin de la guérison, le chemin de la réorientation, qu'il savait qu'elles avaient avec lui un unique principe. Pourtant, il embrassait de plus de tendresse et de douceur celles qui mettent en avant par une ressemblance naturelle et figurent par une signification de l'Écriture la pieuse mansuétude du Christ. Fréquemment, il racheta des agneaux qui étaient conduits à la mort, se souvenant de cet agneau très doux qui voulut être conduit à la mort pour racheter les pécheurs. Beaucoup de scènes de François dans sa relation aux agneaux, justement. Là, en fait, le terme technique et qu'on trouve dans l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, c'est la théologie symbolique. François, donc, évolue dans un monde qui, parce que lui-même est en conversion, retrouve son orientation originelle. Et il exerce vis-à-vis du créé un sacerdoce humain sur le monde créé qu'a rétabli le Christ en soumettant toute chose au Père. Là, je citais un article donc, de 1966 du frère Luc Mathieu. La communion à la création, et là je cite le frère Éloi Leclerc, et je le cite dans mon livre à la page 77, la communion franciscaine à la nature, écrit Éloi Leclerc dans le Cantique des créatures ou les symboles de l'union, la communion franciscaine à la nature est l'expression d'un profond dépouillement de soi. Toujours cette même idée, hein, qui est un peu comme un refrain. Alors cette communion à la nature et qui a permis à François d'entrer dans ce monde, en tout cas de percevoir ce monde qui a retrouvé son orientation originelle, eh bien, il me semble qu'il n'y a pas de meilleure expression que les mots de Bonaventure dans l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, que je prends dans la traduction de Laure Solignac et d'André Ménard. C'est dans le chapitre 1er au paragraphe 15, et vous allez voir comme un écho de Charles White. « Celui donc que n'éclairent pas les si nombreuses splendeurs des créatures est aveugle. Celui que n'éveille pas de si nombreuses clameurs est sourd. Toutes les créatures crient celui qui nous a fait. Celui qui, à partir de tous ses effets, ne loue pas Dieu est muet. Celui qui, à partir de si nombreux indices, je vous disais, hein, il y a des multiples signes qui nous ont été laissés dans notre détresse et dans notre chute, puisque par notre faute nous sommes tombés, mais par chance, il y a encore de nombreux indices. Ne remarque pas, celui qui, à partir de si nombreux indices, ne remarque pas le premier principe est sot. Ouvre donc les yeux, dresse les oreilles de ton esprit, délie tes lèvres et applique ton cœur de telle sorte qu'en toutes les créatures, tu vois ton Dieu, l'entendes, le loues et l'aimes, lui rendes un culte, le magnifie et l'honore, de peur que tout l'univers ne se dresse contre toi. En effet, à cause de cela, tout l'univers s'en prendra aux insensés, mais il sera matière de gloire pour les sensés qui, selon le prophète, peuvent dire « Tu m'as réjoui, Seigneur, dans ta création, et au milieu de tes œuvres, des œuvres de tes mains, je bondirai de joie, que tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de ce qui t'appartient. » L'homme prêtre de la création, l'homme dépouillé, mendiant, ayant une vocation sacerdotale, un service pascal du créé, et c'est ce que François Schenck a exprimé dans ce livre qui vient exprimer un peu plus clairement ce qu'il disait déjà dans l'article, mais je n'ai pas retrouvé les mêmes termes. Je le cite dans, ce sont les derniers mots d'ailleurs de mon livre, puisqu'il me semble particulièrement expressif. François Cheng, Assise, une rencontre inattendue, page 42-44. Le grand vivant. Parce qu'en fait, il s'agit de cela. Il s'agit non pas de vivre au rabais, en étant aveugle, sourd, mais par la conversion, de devenir grand vivant. À ne pas confondre avec le bon vivant, et celui qui va au-devant de la vie. Celui qui va au-devant de la vie. Il y a donc une action aussi, et non pas une passivité, ce dépouillement, cette attitude de mendiant, on dirait aujourd'hui en termes, est proactive. Tenir les deux. Il va au-devant de la vie sans prévention, sans peur. Et c'est probablement ce que les créatures ont instinctivement senti avec François, sans peur et sans restriction, généreusement. Avec un courage désarmant, il en fallait. Il en fallait pour laisser les frères et aller commencer à parler aux oiseaux. Et François qui dit, tiens, mais on n'a jamais pensé faire ça jusqu'à maintenant. Allons-y. Courage désarmant et une confondante générosité. Comme tout un chacun, François va au-devant de ce qui est agréable, bénéfique, gratifiant. Cependant, lui ne se dérobe pas face à ce qui est hostile, éprouvant, nuisible. Privation, intempéries, bêtes sauvages prêtes à dévorer, brigands promptes à tuer, êtres atteints de maladies contagieuses que tous fuient, offensés, humiliés, dont la souffrance vous écrase. Le grand vivant se doit de dévisager toute la souffrance terrestre. Car, l'expression je trouve est assez sublime, ce qui est impliqué à travers l'ensemble des êtres, c'est bien cette immense aventure de la vie. Et voilà, me semble-t-il, exprimé, je cite volontairement historien, philosophe, poète, pour montrer qu'on a vraiment besoin de tous ces regards, finalement, et théologiens, qu'on a vraiment besoin de tous ces regards pour approcher cette aventure de la vie qui est tissée de relations, portée par un amour créateur, rédempteur et sauveur qui n'abandonne pas sa création. Pour que ces êtres farouches entrent en toute confiance dans son intimité, l'empathie lui est nécessaire, mais insuffisante. Il lui faut demeurer lui-même humble et dépouillé, au point de devenir, c'est un peu un synonyme de l'expression mendiant que j'utilisais, pour devenir un, ouvrez les guillemets, rien bienveillant, fermez les guillemets, ou alors un, ouvrez les guillemets, rien vivifiant, fermez les guillemets, un peu à l'image du Créateur qui s'oblige à se tenir en retrait afin que les créatures puissent pleinement vivre. Homme creusé de soif et de faim, car tout don, par essence, contient sa promesse de saveur infinie, aux yeux de ce chantre de la création, puisqu'il s'agissait de célébrer la création, aux yeux de ce chantre de la création, la terre entière se donne à être savourée, en ses amertumes comme en ses délices, celle-ci rendue plus précieuse par celle-là. Merci. Alors évidemment, sur un sujet aussi vaste, qui a fait l'objet de recherches, on a toujours la crainte d'avoir été très elliptique, d'avoir été caricatural, de ne pas être entré dans la nuance des choses et des relations, justement, puisqu'on est sur un terrain théologique, un terrain théologal aussi, hein, puisqu'il s'agit bien, et c'était d'ailleurs les prémices du travail de de Dominique Gagnon, qui s'apprêtait à travailler une thèse en Sorbonne sur le Cantique des créatures, et notamment donc tout inspiré par le contexte théologique culturel dans lequel François évoluait, à la fois pour la théologie symbolique particulièrement, et puis la compréhension de l'écriture avec les quatre sens de l'écriture. Donc on retrouve la dimension de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc il s'agit dans cette conversion, l'homme prêtre de la création, vraiment d'une vie théologale. Donc voilà, il y a certainement beaucoup de points aveugles, mais nous avons d'éminents personnes aussi parmi nous.
Des questions,
Est-ce qu'il faut prendre le micro peut-être pour que les vaillants interlocuteurs et personnes présentes par Zoom puissent entendre? Il y a un bip-bip, Jean-François, qui vient de s'exprimer.
Juste un mot à propos du frère Dominique Gagnon dont vous parlez régulièrement. Quelle fécondité d'une œuvre, parce que, et d'un homme finalement, il meurt à 40 ans et là on a l'impression qu'il est redécouvert et qu'il est à nouveau, il y a le frère André, il y a vous, enfin, qui en parlait, qui redécouvrait son œuvre. Je trouve que c'est une belle leçon, enfin, je veux dire, de...
Oui.
Apparemment, bon, il est mort jeune, il n'a pas fait sa thèse.
Oui, alors le frère André pourra en parler davantage puisqu'il l'a connu. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai lu dans ses articles d'études franciscaines, justement, et ce qui a inspiré les titres de ma troisième partie, justement, où il va vraiment travailler François dans la profondeur de l'existence, à la fois avec la dimension archaïque qui est en chacun de nous, puis en même temps tout ce contexte du XIIe siècle notamment, philosophique et théologique. Donc il va en quelque sorte faire émerger, j'ai envie de dire, aussi un François dans son temps, pas simplement dans les conditions sociales et économiques, mais aussi dans le bain liturgique, catéchétique dans lequel François baignait. Et alors... Mais ces articles dans l'étude franciscaine, c'est un feu d'artifice. Hein. Alors parfois, on se demande un petit peu où est le sens, où est l'ordre. Mais au fur et à mesure, dans deux, trois articles là, vers la fin de sa vie, on sent que la pensée est en train de parvenir à une certaine maturité. Donc, comme j'en parle maintenant dans des milieux franciscains, je dis il faut reprendre maintenant le témoin. Mais frère André, tu voudrais peut-être en dire plus sur Dominique Gagnon. Je trouve que ça serait aussi un hommage à lui rendre. Parce qu'on a besoin de ces frères qui ont laissé.
Oui, alors c'est toujours difficile de parler de ces réalités-là, parce que disons, c'est un contexte qu'on a un peu perdu de vue, et puis je pense que ça a été... un moment fort, en tout cas pour moi, c'était aussi un moment fort, je dirais, ce temps de travail commun là, dans les études franciscaines de l'époque, en écoute de tout le charivari des années 68 et compagnie, et en particulier de toute la crise structuraliste, de toute la pensée de ce moment-là. Je pense que beaucoup n'ont pas compris le travail qu'on essayait de faire à ce niveau-là. Dominique Gagnon était un artiste. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, d'une sensibilité extrême. Il avait une formation, en fait, je dirais anglaise, américaine, si vous voulez, et technique. Et en même temps, c'était un artiste et il est rentré dans la réflexion à travers sa sensibilité. Et ce n'est que progressivement, enfin, dans les échanges qu'on pouvait avoir, en particulier avec Louis Brunière et Jérôme Brunière, que la place de la réflexion, de l'intelligence, de la structuration mentale, a pris sa place chez lui. Bon, après, c'est quand même... un de ses proches, qui était Camille Bérubé, qui avait une pensée totalement à l'opposé de ça, n'arrivait pas à comprendre Dominique. Bon, et je pense qu'on est là sur des clivages d'intelligence, de la tradition franciscaine. Bon, faut pas en être étonné. Mais je pense qu'il y a peut-être à revenir sur un certain nombre de choses qui sont des richesses qu'on n'a pas suffisamment exploitées. Et moi, ma peine, c'est que, la grâce de la pensée franciscaine n'a pas trouvé d'écho vraiment fort dans la vie de l'Église avant le pape François. Il y a eu Benoît XVI qui avait réintégré pas mal de choses. Mais quand on regarde les programmes d'enseignement, quand on regarde ce qui se dit, on est un peu étonné que des gens un peu futés n'aient pas repéré que dans la tradition franciscaine, parce qu'ils ne la connaissent pas, il y a des ressources assez inespérées. Je fais de la propagande.
Affirmer et afficher. Alors je meuble un peu, hein, je peux continuer, et ça fera un écho à ce que disait le frère André. Si vous relisez la fin de l'encyclique, Laudato Si, vous allez trouver des échos avec ce que j'ai essayé d'exprimer hein, ce soir, qui sont un petit peu ramassés, mais si vous prenez les numéros 233 et suivants, les signes sacramentaux et le repos pour célébrer. Par exemple, je cite là dans le livre à la fin parce que ça me semble bien résumé, mais voilà le numéro 233. S'il y a des questions, vous levez la main, je continue la lecture, mais c'est pour rendre l'actualité aussi de ce que j'ai dit. C'est pas simplement la théologie symbolique dont j'ai parlé brièvement et de manière peut-être allusive, mais elle est vraiment bien présente dans l'encyclique, hein, à la fin. Comme justement une clé de lecture de tout ce qui a précédé, c'est-à-dire du diagnostic concret, de développer une spiritualité écologique du petit geste, du quotidien, tout est lié. Et je renvoie à un très bon article dans le dernier étude franciscaine, justement d'un prêtre du diocèse de Paris, qui reprend ce « tout est lié en Christ » dans la théologie de Bonaventure, justement, et qui fait le lien, on pourrait dire, entre rapport avec la clameur de la terre, clameur des pauvres aussi. Donc, numéro 233, l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toute chose, comme l'enseignait saint Bonaventure. Deux points, ouvrez les guillemets, la contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. Pour les chrétiens, c'est le numéro 239, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Saint Bonaventure en est arrivé à affirmer qu'avant le péché, l'être humain pouvait découvrir comment chaque créature atteste que Dieu est trine. C'est la profondeur du regard dont je vous ai parlé. Le reflet de la Trinité pouvait se reconnaître dans la nature quand ce livre n'était pas obscur pour l'homme et que le regard de l'homme n'avait pas été troublé. Le saint franciscain nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire. C'est l'influence de la Trinité créatrice dont j'ai parlé. si réelle qu'elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l'être humain n'était pas limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d'essayer de lire la réalité avec une réalité, avec une clé trinitaire. C'est tout l'objet de ce petit livre, en fait. Et le dernier chapitre, c'est « Et nous ?» Et alors, je propose un exercice pratique que j'emprunte au parcours qui a été plusieurs fois proposé à partir de l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu. Il y avait le frère André, il y a le frère Pascal aussi qui est à Tiaret, le frère Éric Moidon, le frère, Marcel Durer et puis Brigitte Gobet, voilà, qui propose justement une manière incarnée, comme on dit aujourd'hui, de lire l'itinéraire pour se rendre compte que c'est à la fois un travail du regard de l'esprit, mais aussi un travail des cinq sens, un travail de tout l'être, un travail de l'existence qui est en jeu. Et puis, dernier paragraphe que je lis, 240, « Les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. » Les évêques de France ont entrepris tout un travail avec Laudato Si depuis 2-3 ans, dans les diocèses, etc. Et il y a un jeune agriculteur, ça a beaucoup marqué les évêques, qui est intervenu en disant « Mais le sol grouille de fraternité. » C'est la permaculture, en fait. Alors, une fraternité qui se dévore aussi, c'est pas tout rose, etc. Mais le sol grouille de fraternité quand on prend le temps de distinguer, d'observer, d'apprendre, finalement. Donc, les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Discrètement, pourrait-on dire aussi. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié. Et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Voilà tout ceci pour lier ce qui peut nous apparaître sans lien. Je ne vais pas dire délié parce que ce n'est pas le cas, mais sans lien en tout cas. Ce qui peut être un travail de la théologie, un travail de la poésie, un travail des mains dans la terre, un travail du petit geste, tout ce dont parle cette encyclique Laudato Si, qu'il est intéressant à la fois de lire dans le sens où elle est proposée, mais une fois qu'on a lu la fin, les numéros 233, 239, 240, c'est intéressant de tout relire pour justement comprendre ces liens par ce texte et éclairer autant que c'est possible notre regard. Bon, cette fois-ci, je m'arrête. Ah, frère Hippolyte.
Je suis le frère Hippolyte Logoso, je suis frère Capucin de la fraternité de Boissonade.
En résidence.
Voilà, pour ceux qui...
En famille.
Voilà. Je pouvais poser cette question autour d'une table, si tu comprends bien, frère.
Au petit déjeuner.
Au petit déjeuner. Mais je commence par l'élémentaire par lequel on pourrait commencer la lecture de ce livre, c'est la couverture. Je voudrais demander si tu veux en faire un commentaire toi-même.
La couverture du livre?
Oui.
Alors là, c'est très circonstanciel. Pour vous expliquer les choses, voilà, c'est donc Assise qui se dessine, et notamment le Sacro Convento et la Basilique, mais au premier plan, un champ d'olivier. C'est une lumière d'automne, puisque la photo a été prise en novembre 2011. Je m'en souviens, puisque je faisais 3 semaines d'italien à Assise. Et quant au visage dessus, ça, c'est une demande de l'éditeur qui a dit « Maintenant, c'est bien de mettre la tête de celui qui écrit. » Mais voilà, donc ça, il n'y a aucun choix de ma part. C'est l'éditeur qui a souhaité mettre, mais qui en un sens, voilà, parle aussi de cette question, hein, de la place de l'homme et de la femme, de la personne humaine dans le créé, justement. Et puis, il y a cette dimension argentée hein, du champ d'olivier. Certains ont pris cela aussi, je trouve l'image, enfin, l'idée intéressante, du jardin de Gethsemane. Quand la photo a été proposée, parce que maintenant on fait des enquêtes sur Facebook pour savoir quelle couverture vous voulez, et plusieurs ont dit, ben, on dirait Gethsemane. Je me dis, mais c'est tout à fait en écho, puisque le livre s'ouvre sur les stigmates, justement. Et donc, avec cette dimension de l'amour rédempteur et de l'amour qui ne saurait être autre que l'amour créateur, je trouvais du coup l'évocation particulièrement intéressante. Voilà, mais si tu as une autre exégèse, tu n'hésites pas. Hein. Alors voilà, il est en vente à la sortie. Et je remercie la librairie franciscaine de s'être déplacée. Voilà, peut-être que on peut peut-être s'arrêter là parce que vous vouliez aussi.
On a un certain nombre de petites choses.
Donc allez-y.
Sur la conférence, bien sûr. Je voulais dire simplement que je remercie beaucoup frère Eric d'avoir fait ce livre, d'avoir pris l'initiative de faire ce livre. Je parle en tant que forestier, disons, en tant que franciscain séculier. Parce que, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, que la catholicité, les catholiques en France, ont eu beaucoup de mal à se prendre en jeu sur les problèmes de l'écologie et de l'écologie à la regard de la foi. Et que, alors que les papes, depuis longtemps, ont déjà prôné cette dimension. Le pape Jean XVI, le pape Jean-Paul II, etc.
Il faut bien parler dans le micro pour que tout le monde vous entende.
Le pape Jean-Paul II avait déjà pas mal averti les chrétiens et les catholiques et les gens de bonne volonté de faire ce travail. Le pape François, maintenant, le nôtre, actuel, a eu cette génie de la communication de faire son encyclique Laudato Si. Que toutes les paroisses sont prises, enfin, elles sont tous en train de l'étudier. Mais je pense que des fois, par contre, certains chrétiens qui s'en ont pas le font tout de suite directement en recherchant des recettes techniques.
Alors, qui ne sont pas étrangères non plus non, à tout ce dont j'ai parlé.
Mais
c'est tout cela qu'il faut lier.
C'est ça. Et je pense qu'il était très important qu'il y ait un livre, un élément de réflexion. Pour prendre plus en profondeur la conversion des cœurs et des mentalités que notre génération, que notre civilisation humaine doit prendre en ce moment, parce que c'est de là que découleront les recettes techniques, puisque les recettes techniques en elles-mêmes ne suffisent pas. Il y a besoin constamment d'une conversion des cœurs et des mentalités dont les papes ont fait appel les années précédentes, et qu'il manquait cruellement, je trouve, dans l'horizon de nos documents, un document comme le tien.
Allez-y, Pierre.
Voilà, alors, merci. Alors, d'abord, on a un bonjour à tous depuis Tiarette.
Voilà, ça, c'est quand même le génie de la technique. Hein,
voilà,
comme s'il y a une empreinte carbone.
Nous saluons les frères de Tiarette.
On vous salue, alors, avec des initiatives aussi. J'ai vu des photos sur la page Facebook du frère Pascal, justement, d'une marche autour de Tiarette.
Alors, j'ai aussi d'abord les deux prochains rendez-vous. D'abord, parce qu'on est content on s'était dit ce matin, hein, on ne va pas trahir les choses, mais on s'est dit ce matin, s'il n'y a personne, on en tirera les conclusions. Hein. Bon, finalement, vous êtes là et on est vraiment heureux que vous soyez là. Et en plus, il y a du monde derrière l'écran. Donc, c'est sans doute à refaire. Hein.
Vous alors, venir parler devant.
Vous voyez
ben pour ceux qui, justement,
pour ceux qui, voilà.
Voilà, vous prenez la place.
Alors, non, je ne peux pas prendre la place.
Si, parce que vous serez devant la caméra.
Voilà, très bien. Donc, deux rendez-vous que nous allons vous proposer et on va essayer de suivre la même démarche. Hein. D'abord, le 12 novembre, vendredi 12 novembre, nous aurons... Alors là, ça ne se passera pas ici, ça se passera chez les frères mineurs, hein, dans la salle de Saint-Antoine. Ça sera 20 heures. Et là, nous aurons un certain nombre d'auteurs qui ont écrit le livre qui vient de paraître aux éditions du CNRS sur le manuscrit franciscain retrouvé, dont Jacques Dallarin, mais il y en a d'autres également. Il y a toute une flopée d'historiens, et pas uniquement des historiens d'ailleurs, qui ont travaillé sur non seulement la vie retrouvée que nous avait proposée il y a quelques années Jacques Dallarin, mais sur l'ensemble du manuscrit. On s'aperçoit que c'est un... je crois que